Chapitre 2 La sirène. Au milieu d'une vaste pièce meublée avec goût, ornée de jolis bibelots et au fond de laquelle se dressait une grande bibliothèque garnie de livres aux riches reliures, une jeune femme en grand deuil se tenait debout, son long voile noir abattu sur les yeux. Immobile, figée dans une attitude de tristesse infinie, on eût dit la statue de la douleur. L'entrée de Shancock la fit à peine tressaillir. Le détective, s'avançant vers elle, lui adressa un salut plein de déférence. « Madame la comtesse de Roscarvel, » fit-il avec le ton et avec les manières d'un parfait gentleman. « Monsieur Shancock ?» articula la comtesse d'une voix harmonieuse. « Lui-même ?» tout en désignant à la visiteuse une fauteuil placé à la droite d'une fort belle table Louis XVI qui lui servait de bureau, le détective invitait « Veuillez vous asseoir, madame. » Tandis que madame de Roscanvel prenait place sur le siège, le grand limier s'installait devant sa table et tout en cherchant à découvrir de son regard profond le visage de son interlocutrice à travers l'épaisseur du crêpe, avec une expression de respectueuse douceur. Madame, il est inutile de me révéler le but de votre démarche. Je le connais. Est-ce possible ? Fit Marie-Thérèse avec un léger sursaut. Avec une sereine fermeté, Shancock déclarait. Vous désirez que je vous aide à sauver M. Guéret ? La voix de la comtesse s'éleva. Anxieuse, frémissante. « Monsieur, qui a pu vous dire ?» Elle n'acheva pas, car le détective lançait. « Oh, que vous importe, madame, puisque je suis décidé à vous donner satisfaction. »«
Avant de m'avoir entendu ?»«
Oui, madame. »«
Pourquoi ?»«
Oh, parce que j'ai la conviction que Monsieur Guéret est innocent. » Un cri de joie jaillit des lèvres de la comtesse.
« Oh, Monsieur Shancock !»
Et d'un brusque mouvement, rejetant son voile en arrière, elle laissa apparaître aux yeux de Shancock le plus adorable visage qu'il fût possible d'imaginer. Avec un front nimbé d'une auréole bouclée de cheveux d'un or roux, ses yeux bleus, comme les eaux d'un lac italien, et surmontés par l'arc merveilleusement dessiné de deux sourcils légers comme un trait de pinceau, un nez légèrement aquilin, tel celui de Minerve que nous révèlent les médailles antiques, sa bouche aux lèvres de corail qui semblait n'avoir été créée que pour le sourire, son menton du plus pur ovale et toute l'élégance naturelle de sa personne, elle donnait une impression que l'on aurait pu qualifier, sans la moindre exagération, de raphaélique. Impassible, Shancock se disait « Oh, je comprends que cette femme est inspirée de violentes passions et même un grand amour. Car j'en ai rarement rencontré une qui réalise aussi parfaitement en une seule personne le type de la beauté et du charme et de la grâce. Si dans ses vêtements de deuil elle produit un tel effet, qu'est-ce que cela doit être lorsqu'elle est revêtue de couleurs claires ou qu'elle reçoit dans une suggestive toilette de soirée l'éclat de mille lumières. Madame de Roscanvel, qui s'était ressaisie, reprenait.
« Monsieur Shancock, auriez-vous déjà la preuve que Monsieur Guéret est innocent ?»«
Pas encore, madame, » déclarait le roi des détectives, avec la franchise qu'il caractérisait. « Mais j'ai la foi, et cela me suffit. »«
Je vois que cette tragique affaire vous intéresse. »
Oui, énormément.
Sans doute l'avez-vous étudié à fond.
Mon Dieu, non, madame, non, je n'en sais rien de plus que ce que m'ont raconté les journaux.
Alors, qui a déterminé en vous la conviction que Julien Guéret n'était pas coupable?
Mon flair, répliqua le grand limier sans hésiter, et désireux de ne pas démasquer tout de suite ses batteries. Il ajouta aussitôt, Et puis, quelques éléments impondérables qui pourraient paraître insignifiants au commun des mortels, mais sont suffisants pour éveiller et retenir l'attention des gens du métier. La comtesse affirmait avec émotion. Oh, vous ne pouvez vous figurer, monsieur, combien je vous suis reconnaissante de l'accueil réconfortant que vous avez bien voulu me réserver. Maintenant, me voilà délivré d'une terrible angoisse, puisque je puis compter désormais sur le plus puissant des concours, celui du plus célèbre de nos détectives, d'un homme pour lequel il n'existe pas de mystère insondable, d'intrigues indéchiffrables, et grâce auquel, à défaut d'un bonheur à jamais détruit, je vais, j'en suis sûr, retrouver bientôt la paix de l'âme. Sans quitter un seul instant des yeux, son interlocutrice, Chantecoq, ripostait. Madame, l'estime que vous me témoignez me flatte infiniment, et j'espère m'en montrer digne. Cependant, elle m'impose un impérieux devoir, celui de vous prévenir que nous allons nous trouver en face de difficultés considérables et d'obstacles dangereux à franchir. Mais j'ai la certitude, monsieur, que vous réussirez. Moi aussi, madame, mais à une condition. Laquelle? Eh bien, c'est que vous me juriez que vous allez répondre et que vous répondrez toujours avec une sincérité complète aux questions, même les plus délicates, que je serai en train de vous poser. Je m'y engage absolument, ponctuait Marie-Thérèse, avec une belle spontanéité que Chantecoq, maître psychologue, avait avant tout, se sentit, à sa vive satisfaction, entièrement assuré sur le compte de celle que son mystérieux correspondant lui avait dépeinte comme une redoutable sirène. Aussi, sans perdre une seconde, il continua. Me permettez-vous de commencer tout de suite? Mais j'allais vous en prier, acceptait Marie-Thérèse. Auparavant, je désirais m'entendre avec vous au sujet de vos honoraires et sur le chiffre de la provision que je dois vous verser. Madame, sourit Chantecoq, j'ai pour principe de ne jamais prendre un centime d'avance aux personnes qui, ainsi que vous, me témoignent une si précieuse confiance. Et pourquoi, à mon tour, n'aurais-je pas confiance en elles? Cependant, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce chapitre, voici mes conditions. Si j'échoue, vous ne me devrez rien. Et si je réussis, vous fixerez vous-même la somme dont vous jugerez m'être redevable. Mais, monsieur Chantecoq, je ne puis accepter. Le roi des détectives interrompait. Voulez-vous, madame, que nous nous mettions tout de suite au travail? Car chaque minute que nous perdons nous éloigne du but que nous poursuivons en commun, la libération d'un innocent. Vous avez raison, monsieur, interrogez-moi, je vous répondrai. Encore une fois, je vous préviens que vous êtes indiscret, brutal peut-être. Mais parlez, je vous dirai tout. Comme un confesseur, comme un confesseur. Bien, je vois, madame, que nous allons très bien nous entendre. J'en étais convaincu d'avance. Chantecoq prit un temps, puis, tout en enveloppant Madame de Rosenthal de son regard pénétrant, qu'elle soutint avec un calme dénué de toute forfanterie, il fit lentement. Première et capitale question. Étiez-vous, oui ou non, la maîtresse de Julien Guéret? Non, monsieur, répondait la comtesse avec énergie. J'aimais mon mari autant qu'il m'aimait lui-même, et quand bien même mon cœur n'eût-il pas répondu au sentiment que j'avais inspiré au sien, je lui étais lié par une reconnaissance trop infinie pour avoir jamais eu même l'intention de le trahir. Bien, ponctuait le détective, qui se préparait à formuler une seconde question. Mais Madame de Rosenval continuait. Je suis d'une origine très modeste. Je le sais, ponctuait le limier. Et tout en souriant le plus aimablement et le plus finement du monde à sa belle cliente, il précisa. Je n'ignore rien de votre passé, ni des circonstances qui ont précédé et accompagné votre union avec le jeune comte de Sescarvel. Marie-Thérèse reprenait. Je ne puis que me féliciter, monsieur, de constater que vous soyez si bien documenté à mon sujet. Cela m'évite un long et pénible récit. Cependant, laissez-moi vous dire que si j'ai épousé le comte Robert, c'est non point ainsi que sa famille l'a prétendu, et le prétend encore, parce qu'il était riche, mais avant tout, et je dirais même uniquement parce que je l'aimais. Donc, concluait Chantecloque, mariage d'amour. Oui, mariage d'amour, accentuait la jeune femme. Et depuis? Interrogeait le détective. Ben, nous n'avons pas cessé d'être un ménage excellent, et je crois être en droit de vous affirmer sans aucune présomption que mon mari était aussi fidèle envers moi que je l'étais envers lui. Il m'adorait. Était-il jaloux? Oh, pas du tout. Je l'ai même entendu répéter souvent qu'il ne comprenait pas la jalousie. Elle est, disait-il, une torture pour ceux qui la ressentent et une injure pour ceux qui en sont l'objet. Par conséquent, observait le limier, jamais la présence de Julien Guéret dans votre intimité ne l'a offusqué. Jamais. Était-il au courant des commentaires qu'elle suscitait autour de lui? Oui, ben, il les dédaignait. Il se contentait de déclarer « Les chiens aboient, la caravane passe ». Et comment avez-vous connu Julien Guéret? Au cours d'un voyage en Norvège, où ce jeune écrivain s'était rendu pour se documenter au sujet d'un roman qu'il préparait dont l'action se déroulait dans ce pays. Oh, c'était un très brillant causeur. Il s'attira rapidement l'amitié de mon mari et la mienne. Il la méritait, car je dois vous dire que c'est un des esprits les plus élevés et des cœurs les plus généreux, les plus sensibles, qui m'ait été donné de rencontrer. Chantecoq prit un nouveau temps, comme s'il se recueillait, puis il fit. « Si Julien Guéret ne vous a jamais inspiré qu'une très pure affection, pouvez-vous affirmer que lui ne vous a pas aimé d'amour ?»« Mais Julien Guéret, scandait Marie-Thérèse, m'a aimé et m'aime encore de toutes les forces de son être. Vous en a-t-il fait l'aveu ?»« Jamais, mais j'ai tout deviné. » Alors j'ai cru devoir en avertir mon mari. Et que vous a répondu le comte Robert? Eh bien, il m'a tiré doucement dans ses bras et m'a déclaré. Je le savais. Ce matin, loyalement, Julien m'a dit la vérité. Je ne voulais pas t'en parler, car je croyais que tu ne t'étais aperçu de rien. Je ne voulais pas te troubler. Mais, puisque tu es au courant, je tiens à t'apprendre que notre ami, avec un courage magnifique, a décidé de nous quitter demain soir pour longtemps, peut-être même pour toujours. Alors, tandis que deux grosses larmes jaillissaient de ses yeux, Madame de Roscanvel s'écria. Et le lendemain soir, Robert était assassiné. Chantecoq reprenait. Pardonnez-moi, madame, de réveiller en vous de si cruels souvenirs, mais hélas, je n'ai pas terminé mon interrogatoire. Il est indispensable que je sois renseigné exactement sur tous les détails, sur toutes les circonstances du drame qui s'est passé là-bas. Cette nuit affreuse, martelait Marie-Thérèse, qui visiblement faisait tous ses efforts pour demeurer courageuse. Oh, cette nuit atroce, abominable, je l'ai déjà vécue tant de fois que je peux bien l'évoquer encore. Et elle continua. Robert, monsieur Guéret et moi étions installés depuis une quinzaine de jours environ dans notre propriété, les Mimosas, qui est située sur le littoral aux environs de Cassis, à 30 km de Marseille, lorsque, vers 3 heures de l'après-midi, notre ami, qui parvenait mal à dissimuler la tristesse que lui causait son prochain départ, nous invita à prendre le thé dans un petit établissement champêtre situé à 2 km environ dans la campagne. Comme il faisait beau, nous résolûmes de nous y rendre à pied.
Et ce fut en chemin que Julien Guéret nous dit qu'il était rappelé à Paris par son éditeur pour une affaire urgente. Il ajouta qu'il reviendrait bientôt et, pour me donner le change, durant tout le trajet et pendant tout le temps que nous passâmes assis en face d'un fort beau panorama à contempler, le soir tombant sur la mer, sur les alentours et les enveloppant de ses ombres, il affecta une gravité qui, à moi, qui savais tout, m'inspira une compassion infinie que je lus également dans les yeux de mon cher Robert. Lorsque nous reprîmes la route des Mimosas, la nuit était complète. « Et quelle heure était-il ? » demanda Chantecol. « Oh, 17 heures environ. Je vous remercie. » La comtesse reprenait. Robert nous proposa de prendre un chemin de traverse qui raccourcissait le moitié de notre trajet. Je m'y refusais car il fallait traverser la voie du chemin de fer. Je me souciais guère de risquer un accident et même une contravention. Mon mari me plaisanta gentiment, ainsi qu'il le faisait toujours, et il me dit « Bien rentré, Julien et toi, par où vous voudrez. Moi, je file par là. Je parie que lorsque vous arriverez au Mimosa, j'aurai eu le temps de vous préparer des splendides cocktails. » Je voulus le retenir, je n'en eus pas le temps. En quelques secondes, il avait disparu dans les ténèbres. « Tiens, tiens !» fit Chantecoq, dont le masque, demeuré jusqu'alors impénétrable, s'anima d'un furtif tressaillement. Madame de Roscanvel, à laquelle ce jeu de physionomie n'avait pas échappé, s'écriait « Vous êtes surpris, n'est-ce pas, que mon mari, bien qu'au courant de l'amour que Julien avait pour moi, m'ait laissé seul avec lui ?»« En effet, » déclarait Chantecoq, « je ne puis m'empêcher de trouver étrange, si grande et si légitime fut sa conduite envers vous, que M. de Roscanvel vous ait placé, M. Guéret et vous, dans une situation qui ne pouvait être pour l'un que profondément pénible et pour l'autre extrêmement délicate. » Sans la moindre hésitation, Marie-Thérèse répliquait « Pour s'expliquer un acte qui, au premier abord, semble justement d'une conséquence regrettable, il faudrait avoir bien connu Robert. C'était un impulsif dans toute l'acception du mot. Son principal défaut, je devrais dire le seul, était une absence presque totale de toute arrière-pensée. La vie l'avait tellement gâté. Le seul chagrin qu'il eût éprouvé était celui que lui avait causé l'hostilité de ses parents à notre mariage et la brouille qui s'en était suivie entre eux et lui. Encore cette peine avait-elle été de brève durée. Au bout d'une année, le marquis et la marquise de Roscanvel avaient consenti à lui pardonner et même à me recevoir. Bref, mon pauvre Robert, incapable de tromper personne, ayant une instinctive horreur de tout calcul intéressé, ne songeait qu'à être heureux en me rendant heureuse, et comme grisé par cette joie de vivre qui l'emportait, ne pensais peut-être plus au moment où il me laissa seul avec Guéret à l'aveu chevaleresque que celui-ci avait fait le matin même. À moins que ce qui, de sa part, n'aurait rien d'étonnant, dans un des élans de bonté dont il était coutumier, il eût voulu laisser à celui qui se sacrifiait si noblement la consolation mélancolique de m'adresser ses adieux sans témoin. Robert n'était-il pas sûr de son ami, sûr de moi. D'ailleurs, peu importe le mobile auquel il avait obéi, je suis ici pour vous narrer des faits et non pour m'égarer dans des considérations sentimentales qui ne sauraient avoir pour vous qu'une espèce d'intérêt. Oh, détrompez-vous, madame, assurait le détective avec insistance. Tous ces détails sont au contraire fort importants. Et d'un air un peu énigmatique, il appuya « plus important même que vous ne pouvez vous l'imaginer. Mais continuez donc votre récit, je vous en prie. » La comtesse reprenait aussitôt. Alors nous rentrâmes, Julien Guéret et moi. Puisque vous tenez à ce que je vous raconte tout. Oui, c'est indispensable. Je vous dirai donc que durant la grande demi-heure que nous mîmes à regagner la villa, ce malheureux, qui, en un souci d'honneur incomparable, était à la veille de se condamner à un exil moral, dont vous devinez l'amertume, n'eut pas un mot, pas un regard qui fût de nature à me révéler le drame qui se jouait en lui. Il marchait d'un pas allègre, il parlait, il plaisantait même. Ce fut seulement lorsque nous pénétrâmes dans le jardin que par un simple geste rapide, spontané, et qui n'avait pas eu le temps de réprimer, qu'il souleva un des points du voile mystérieux sous lequel il croyait si bien m'avoir caché son amour. Tendant la main vers un mimosa en fleurs, il en coupa une petite branche, puis l'approchant de mon visage, il me dit « Respirez-la un peu, un tout petit peu, et puis embrassez-la. » Je fis ce qu'il me demandait. Alors, brusquement, il s'éloigna de moi, la branche embaumée, et tout en la serrant précipitamment dans l'une des poches intérieures de son veston, il courut vers la maison, vite, très vite, comme un malfaiteur qui aurait commis une mauvaise action. Je me rapprochai et je l'entendis, dans le living room, appeler d'une voix claironnante « Robert, mon vieux, et c'est Martini !» Je pénétrai dans la pièce. Mon mari ne s'y trouvant pas, je m'avançai vers un petit bar de fantaisie qui communiquait directement avec elle. Et toujours personne. Je remarquai même que les gobelets dans lesquels Robert avait l'habitude de manipuler ses cocktails étaient toujours à leur place. Je revins dans le living room. Inquiète, je sonnai. Ce fut Marco, le maître d'hôtel, qui se présenta. Un misérable, soit dit entre parenthèses. Pourquoi ? M'interrogeait Chantecoq, qui a ce mot de misérable que Madame de Roscanvel venait de proférer avec une indignation marquée et avait vivement dressé l'oreille. C'est lui qui, avec Suzanne, ma première femme de chambre, a eu l'infamie d'affirmer au juge d'instruction qui nous avait surpris tous les deux, Julien Guéret et moi, en train de nous embrasser sur la bouche le lendemain de l'assassinat de mon mari. « Ah ah !» ponctua le roi des détectives. « Voici un fait qui n'est pas dédaigné. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler par la suite. En attendant, madame, je vous écoute. » La comtesse Marie-Thérèse continuait. Je demandai à Marco si le comte était rentré. Il me répondit que non, et de son air servile et sur un ton obséquieux, il me pria de lui dire si le dîner était toujours pour 8 heures. Je lui fis un signe affirmatif et je le congédiai aussitôt. Jamais il ne m'avait été très sympathique, mais ce soir-là, je ne saurais trop vous dire pourquoi. Peut-être pressentais-je que j'allais avoir en lui un ignoble accusateur, un lâche ennemi. Il me portait terriblement sur les nerfs, et puis je commençais à me tourmenter. Alors je fis tout haut. « Mais je suis stupéfaite que Robert ne vous ait pas devancé, pourvu qu'en traversant la voie ferrée, il ne soit pas arrivé un accident. » Julien Guéret, cherchant à me rassurer, me fit observer que Robert avait très bien pu rencontrer un de nos voisins et s'être retardé à bavarder avec lui. Mais les minutes s'écoulaient et mon mari ne rentrait toujours pas. À 19 heures, n'y tenant plus, je partis à sa recherche. Guéret m'accompagnait. Mon instinct me poussa vers la voie du chemin de fer. Oh, nous mîmes environ 20 minutes à l'atteindre. Julien paraissait très ému, très angoissé lui aussi. C'est à peine si, de temps en temps, nous échangeions quelques phrases qui se résumaient toutes par ces mots. « Mais où est-il? Qu'a-t-il pu faire? Qu'est-il devenu ?» Et tout à coup, je me souvins que le train bleu qui part dans l'après-midi de Nice avait dû passer très peu de temps après que mon mari nous avait quittés. Je me rappelais même avoir entendu un roulement derrière moi quand je regagnais les Mimosas. et en me retournant, avoir aperçu ces feux rouges qui, à une allure vertigineuse, fuyaient dans la nuit. Mon cœur se serra affreusement. Maintenant, je n'en doutais plus. Robert avait dû être happé, écrasé par le rapide. Je chancelais, et Guéret m'offrit son bras, je m'y cramponnais. Nous approchions du ballast. Je crus distinguer, au sommet du remblai, éclairé par de vagues lueurs de lanterne, des ombres qui s'agitaient, en un murmure confus, dominé par des cris indistincts. Galvanisé, je m'élançai, mais dominant le tumulte, une grosse voix bourrue lançait « Ces hommes qu'on vient de trouver embouillis sur la ligne !» Oh, je n'entendis pas davantage, je m'évanouis. Lorsque je revins à moi, j'étais étendu sur mon lit dans ma chambre. Un médecin du pays était près de moi. C'était un homme âgé, bon, qui venait parfois en ami nous rendre visite. Mon premier cri fut « Herbert !» Le docteur Lormier ne me répondit que par un geste qui voulait être rassurant et ne parvint à être que dilatoire. D'ailleurs, il n'avait pas besoin de parler. La terrible phrase qui 2 heures auparavant m'avait broyé vibra de nouveau à mon oreille. Aucun espoir ne m'était permis, et je fis d'une voix brisée « Il est mort, n'est-ce pas ?» Monsieur Larmier murmura « Du courage !» Je perdis de nouveau connaissance. Il paraît que pendant 1 mois, je fus entre la vie et la mort. Quand je revins à moi, je réclamai des détails. On me dit que mon mari reposait dans le tombeau de sa famille. Puis peu à peu, avec beaucoup de ménagement, on m'apprit que Robert n'avait pas été victime d'un accident, ainsi que je l'avais cru, mais d'un crime. Et quelle ne fut pas ma stupeur en apprenant que le coupable n'était autre que Julien Guéret, et que celui-ci, depuis plus de 15 jours déjà, était en prison à Marseille. Or, je savais que cela était impossible, puisque à l'heure même où la police affirmait que mon pauvre Robert avait été tué d'une balle de revolver, tirée presque à bout portant en plein cœur et traînée sur la voie ferrée, afin de simuler un suicide, Julien Guéret était avec moi et ne m'avait pas quitté d'un pas. Convaincu que mon témoignage suffirait pour faire remettre en liberté mon malheureux ami, je partis immédiatement pour Marseille. Là, j'appris que Guéret avait choisi pour défenseur un jeune avocat qui avait déjà obtenu de grands succès en cour d'assises. Il se nomme Maître André Barelli. Et je tiens à vous déclarer tout de suite que je n'ai eu qu'à me louer de lui. C'est un homme de talent et de cœur. Maître Barelli ne me cacha pas que ma démarche ne faisait que prévenir une citation dont j'allais être l'objet de la part du juge d'instruction chargé de l'affaire. Et comme je lui exprimais ma conviction en la libération prochaine de Guéret, il me dit « Oh, si pénible cela soit-il pour moi, j'ai le devoir de vous mettre en garde contre une l'illusion. On a relevé contre mon client des charges terribles. La police, naturellement, a retrouvé l'arme du crime, un revolver qui avait appartenu à votre mari et sur lequel on a recueilli les empreintes digitales de l'accusé. Certains témoignages tendent à démontrer que Guéret avait un puissant intérêt à ce que votre mari disparût. Vous connaissez la mentalité de la plupart des juges d'instruction. Quand ils tiennent un inculpé, ils n'aiment guère à le relâcher, surtout lorsqu'ils se croient de bonne foi. Et c'est le cas, qu'il est coupable. Voilà pourquoi je crains fort que votre déposition ne soit guère utile à la cause de Guéret et ne serve qu'à vous compromettre vous-même. Me compromettre, moi ? M'écriai-je, pourquoi ? Maître Barelli répliquait d'un air préoccupé. « Madame, je n'ai pas le droit de vous le dissimuler. » Monsieur le juge d'instruction Ribécourt est persuadé que que vous étiez l'ami de Julien Guéret, et sans vous accuser encore d'être sa complice, il n'est pas éloigné de croire que vous avez été au courant de ses projets et que vous n'avez rien fait pour l'empêcher de les exécuter. Affolé, je protestais. Mais c'est une honteuse, une abominable calomnie. Mais je veux faire toute la liberté, je la ferai. Maître Barelli reprenait. Madame, permettez-moi de vous conseiller la prudence. Oh, ça, m'écriai-je, vous aussi, vous le croyez donc coupable ? Non, madame, fit l'avocat. Si j'avais pensé que M. Julien Guéret était capable d'un crime aussi abject, je n'eusse pas accepté de le défendre. Tuer son ami pour s'emparer ensuite de sa fortune et de sa femme, n'est-ce pas un des crimes les plus abominables que l'on puisse imaginer ? Mais lorsque le malheureux s'est ouvert en moi en toute franchise, lorsqu'il m'a révélé, et en quels termes émouvants, le secret de son cœur, et qu'il s'est écrié, « Comment aurais-je pu espérer qu'elle serait un jour à moi, puisque j'étais sûr qu'elle serait toujours à lui ?» J'ai compris que cet homme ne pouvait pas être un assassin, et qu'une machination véritablement infernale avait été ourdie contre lui et contre vous, madame, dans le but de masquer le crime d'un autre. Ces paroles, monsieur Chantecoq, mirent un peu d'apaisement dans mon désarroi. Je sentais que j'avais près de moi une conviction qui pouvait être mieux qu'un réconfort, une espérance. Au moins, je n'étais plus seul pour affronter une bataille dont la tête d'un innocent et mon honneur de femme était l'enjeu, et décidé à me montrer à la fois très énergique et très prudente, ainsi que m'avait incité M. Barelli, je me rendis auprès du juge d'instruction. « Monsieur Chantecoq, dans votre longue carrière de détective, vous avez dû certainement rencontrer, à côté de ces magistrats, à la haute et sereine conscience, qui font l'honneur de leur corporation, de ces inquisiteurs intègres à coup sûr, persuadés qu'en se montrant implacables, ils accomplissent une mission sacrée entre toutes, et que, inconsciemment, ils se font des pouvoirs illimités, que leur confère la loi, une conception aussi étroite que rigoureuse. Eh bien, monsieur Ribécourt est de cela. Rien qu'à le voir, assis dans son fauteuil, vous fixant à travers ses lunettes posées sur un nez en bec d'aigle, m'accueillant avec le sourire pincé de ses lèvres minces incolores que surmonte une maigre moustache grise aux pointes tombantes, je sentis que j'avais devant moi non pas un adversaire, mais l'ennemi, avec une politesse glacée qui accentuait encore sa visible hostilité à mon égard. Il me remercia d'avoir devancé sa convocation, il me demanda de lui dire ce que je savais. Je lui déclarai, ainsi que je l'avais dit à M. Barelli, que Julien Guéret ne pouvait pas avoir assassiné mon mari, puisque, à l'heure même du crime, il se trouvait avec moi. M. Ribécourt me laissa parler sans m'interrompre. Et lorsque j'eus terminé, il fit de sa petite voix sèche, pointue, qui m'entrait dans les oreilles comme une vrille. « Oui, c'est exactement ce que m'a dit l'accusé. » Je répliquai. « Et c'est la vérité ?»« Non, madame, scanda le magistrat. Dites plutôt que vous voulez sauver votre amant. »« Mais monsieur Guéret, protestais-je, n'a jamais été mon amant. »« J'ai dans mon dossier la preuve du contraire, » affirmait le juge d'instruction. « Je serais curieuse de la connaître. Ceci est mon affaire, madame, et non la vôtre. » « Je constate, monsieur le juge, fis-je indigné, que vous me refusez le droit de confondre mes calomniateurs. » Et le magistrat reprenait. « L'ardeur avec laquelle vous défendez Julien Guéret ne peut que renforcer mon opinion basée sur les déclarations aussi spontanées que désintéressées d'honnêtes témoins, qui mieux que tous autres étaient à même de connaître votre vie intime. »« Qu'un des domestiques !» m'écriai-je avec dégoût. Vous avouez donc, insinuait mon tortionnaire. Je m'étonne, ripostai-je, qu'un magistrat qui assume de si graves responsabilités ait pu écouter aussi complaisamment un maître d'hôtel et une femme de chambre que j'ai dû chasser parce que je les avais surpris tous deux en train d'écouter aux portes. Monsieur de Ribécourt eut un léger haussement d'épaule, puis il me demanda « Vous avez à me dire, madame ?»« Oui, monsieur le juge, répondis-je. Votre siège est fait, je sens que vous n'accorderez aucun crédit à mes paroles. » Vous avez tort de prendre une attitude aussi arrogante, me lança le magistrat sur un ton menaçant. Et il ajouta, tout en tortillant du bout des doigts l'un des bouts de sa moustache, n'oubliez pas que je pourrais vous garder à ma disposition. Bien, je fus sur le point de m'écrier, eh bien, arrêtez-moi. Mais je me rappelais la recommandation que m'avait faite maître Barelli. Et d'un ton plus modéré, je répliquai, Monsieur le juge, j'ai ma conscience pour moi. Faites ce que la vôtre vous déclare, dictera. Cette réponse parut produire sur le magistrat une impression assez favorable. Et d'un ton moins agressif, il me dit « Vous pouvez vous retirer, madame. J'aurai certainement besoin de vous interroger encore. Aussi dans votre intérêt, aussi bien que dans celui de la justice, je vous engage vivement à ne pas vous éloigner de Marseille. C'était d'ailleurs mon intention. Convaincue, certaine, que Julien Guéret était innocent, je ne voulais pas l'abandonner et je tenais essentiellement à ce qu'il sût qu'il pouvait compter sur tout mon appui. Et à partir de ce moment, monsieur le Chantecoq, mon existence devint un supplice intolérable. Je m'aperçus bientôt que j'étais suivi, épié par des agents de police, en civil, qui, dès ma sortie du cabinet du juge d'instruction, s'étaient attachés à mes pas. Je retournai chez maître Barelli, et il fit « Que vous disais-je ?» Et il ajouta « Oh, je crois que le mieux est d'attendre le grand jour de la cour d'assises pour tenter de sauver Guéret. » Dès le lendemain, j'étais convoqué par M. Ribécourt. Pendant 3 heures, il me posa les questions les plus insidieuses, les plus inattendues, cherchant à m'embarrasser et à me faire tomber dans des pièges que fort habilement il me tendait à m'amener à me contredire. Il n'y parvint pas. Sur mes instances réitérées, il finit par reconnaître que c'était bien le maître d'hôtel Marco et la femme de chambre Suzanne qui lui avaient affirmé que j'étais la maîtresse de Guéret. Il me lut leur témoignage, rempli de détails aussi scabreux que mensongers, et il me mit sous les yeux un brouillon de lettres dont Suzanne prétendait avoir retrouvé les fragments dans une corbeille à papier, et où, dans les termes qui ne pouvaient laisser subsister aucun doute sur l'intimité de nos relations, je demandais à Julien Guéret, resté à Paris, de venir me rejoindre le plus tôt possible au Mimosa. Or, monsieur Chantecoq, je n'ai jamais écrit cette lettre. C'est un faux, très adroitement réalisé, j'en conviens. Je l'ai affirmé au juge d'instruction. Et qu'a-t-il répondu ? Interrogeait Chantecoq. Et qu'il allait soumettre ma lettre à un examen. Et en connaît-on le résultat ? Oui. Et contrairement à mon attente, les experts ont conclu à l'authenticité du document. Et le détective soulignait « Ah ! Ce qui prouve qu'à Paris, aussi bien qu'à Marseille, et que partout ailleurs, les techniciens de cette catégorie sont sujets à l'erreur. Il n'y a qu'à demander une contre-expertise. » Bien, c'est ce que M. Barelli m'a conseillé. Mais les événements se sont précipités d'une façon si rapide et si terrible que maintenant tout devient inutile. Voyons cela, ponctua le grand limier. Bien hier, convoqué de nouveau par M. Ribécourt, j'arrivais à son cabinet à 11 heures précises. Il me reçut aussitôt. Et que ne fut pas mon émotion en apercevant debout devant lui, menottes aux mains. Julien Guéret, qui à ma vue ne put réprimer un cri de détresse. J'allais lui tendre la main, mais M. Ribécourt m'arrêta d'un ton péremptoire. « Je n'ai ni le lieu ni le moment, fit-il, de vous livrer à des effusions aussi déplacées. » Et il poursuivit de cette voix désagréable, vinaigrée, qui faisait grincer chacun de ses mots comme la charnière d'une très vieille porte. « Si je vous ai mis en présence l'un de l'autre, c'est parce que j'estimais cette confrontation nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Je vous ordonne donc à tous les deux de répondre nettement et sans détour aux questions que je vais vous poser. Quant à vous, Guéret, je vous conseille dans votre intérêt de vous départir de ce système de défense qui, en niant les faits les plus avérés, n'aura pas précisément pour effet de vous attirer l'indulgence de ceux qui prochainement vont être appelés à vous juger. Une dernière fois, je vous demande si vous reconnaissez avoir assassiné le comte Robert de Broscanvel. » Avec beaucoup de dignité, Julien répliquait « Je ne puis que vous affirmer, et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle, que je suis innocent. » Le magistrat reprenait « Persistez-vous à prétendre qu'à l'heure du crime, vous vous trouviez en tête à tête avec Madame de Roscanvel ?»« Parfaitement. Que vous n'êtes pas et que vous n'avez jamais été son amant. » »« Je le jure. » Se tournant vers moi, M. Ribécourt, avec un sourire sardonique qui me figea le sang dans les veines, grommelait « Et vous, madame ?» Sans la moindre hésitation, je répondis « Je maintiens toutes mes précédentes déclarations. »« Bien !» fit le juge. Et après avoir lancé un coup d'œil oblique à son greffier, qui, assis à une table voisine, griffonnait des mots, il fit d'un ton tranchant « Dans ces conditions, madame, je suis obligé de vous inculper de complicité de meurtre et de vous mettre en état d'arrestation. »«
Moi ?»
fis-je en pâlissant. « Monsieur Ribécourt martelait. Vos mensonges successifs et obstinés font mieux que de m'en donner le droit, ils m'y obligent. » Blême d'indignation et de colère, Julien Guéret s'écriait. « Mais vous commettez, monsieur le juge, pire qu'un abus de pouvoir. » Une abominable injustice. Silence ! Cherchait à imposer le magistrat. Mais emporté par la fureur, malgré les mauvais efforts du greffier et du gendarme, qui s'évertuaient à lui imposer silence, Julien clamait éperdu. Une victime ne vous suffit pas, il vous en faut deux. Et c'est sur un échec fraudage de preuves qu'ils n'en sont pas. De commérages, de calomnies, œuvres de domestiques renvoyés, de faux rapports, de police ou d'experts dont les conclusions sont erronées d'un bout à l'autre, que vous basez votre conviction. Voyons, il n'est pas possible que vous commettiez une double erreur aussi lamentable. Vous ne me croyez pas, eh bien, gardez-moi, envoyez-moi aux assises, au bagne, à l'échafaud. Mais l'emprison, ah non, non, ah non, non, tout, pas cela. Calmez-vous, lui dis-je, notre innocence ne peut manquer d'être reconnue. Greffier, ordonnait M. Ribécourt, implacable, préparez un mandat d'arrêt au nom de la femme Marie-Thérèse Trégaret, comtesse de Roscanvel. Je ne veux pas, écumait Julien, que son gardien avait peine à maintenir. Gendarme, intimait le juge. Reconduisez l'accusé en prison. Mais c'est une infamie, hurlait le malheureux hors de lui. Un autre gendarme, accouru à ses cris, pénétrait dans le cabinet et aidait son camarade à entraîner Guéret dans le couloir. Au moment où ils allaient franchir le seuil, Julien, se calmant subitement, se retournait vers M. Ribécourt. Et d'un ton glacial qui me fit courir un frisson par tout le corps, il fit « Eh bien oui, c'est moi qui ai tué le comte Robert, mais elle est innocente, innocente !»
Il s'effondra dans les bras de gendarmes qui l'entraînèrent dans une pièce attenante au bureau du magistrat. Folle d'épouvante, incapable de faire un geste, je regardais M. Ribécourt, qui, avec un sourire de triomphe, lançait d'un ton à son greffier: Oh, c'est tout ce que je voulais lui faire dire! Et s'adressant à moi, il ajouta: Vous êtes libre. Au lieu de me diriger vers la porte que le juge m'indiquait de la main, je m'avançai vers lui, chancelante, à demi-morte. Alors, éclatant en sanglots, je lui criai: Mais vous ne voyez donc pas qu'il s'accuse? Mais c'est pour éviter la prison, pour sauver mon honneur. Un ricanement répondit à ce cri parti du fond de mon âme. Alors je suppliais cet homme. Oh, que lui ai-je dit? Je n'en sais plus rien. Des choses attendrissantes. Oui, car j'ai surpris dans le regard de son greffier une lueur de pitié. Mais dans le sien, au pas, en lui, il n'y avait plus rien d'humain. Brisé, je suis parti et je suis allé tout dire à Maître Barelli. Consterné, accablé, il n'a pu que me dire: Ce pauvre Guéret s'est sacrifié pour vous. Mais comment vais-je faire pour le tirer de là? Alors je lui ai dit: Mais il le faut, je le veux. Quand je devrais dépenser jusqu'à mon dernier sou pour éclaircir ce mystère effroyable, pour démasquer le véritable assassin de mon mari, je le ferai. C'est mon devoir. Je ne peux pas laisser condamner un innocent qui, par amour pour moi, pousse l'héroïsme jusqu'à risquer l'échafaud. Maître Barelli, aidez-moi, conseillez-moi. Le jeune avocat de la main m'imposa silence. Le visage contracté, il se mit à arpenter à grands pas son cabinet de travail. Puis revenant vers moi, il me dit: Il n'y a qu'un homme au monde qui soit capable de déchiffrer cette énigme. C'est le détective privé Chantecoq. Vous allez prendre le premier rapide pour Paris, demander au grand policier un rendez-vous dans le plus bref délai et lui raconter toute la vérité ainsi que vous me l'avez révélée à moi-même. S'il consent à s'occuper de cette affaire, il y a les plus grandes chances pour que le mystère du train bleu soit éclairci et que l'innocent de Julien Guéret soit reconnu. Alors, monsieur Chantecoq, j'ai suivi le conseil de Maître Barelli. Dès le début de cet entretien, vous avez bien voulu me dire que vous consentiez à me venir en aide. Maintenant que vous connaissez dans toute son étendue le drame effrayant au milieu duquel je me débats, puis-je toujours compter sur vous? Plus que jamais, madame, affirmait le détective avec force. Oh, merci de tout cœur. Ma situation est tellement épouvantable. La famille de mon mari m'a renié. Mon père lui-même ne veut plus me voir. Il n'y a plus que ma pauvre vieille maman qui ait pitié de mon désespoir. L'opinion publique est tout entière contre moi. Je me sens méprisé, honni, traqué de toutes parts. Ce matin, en descendant du train à la gare de Lyon, j'ai reconnu deux agents de la police secrète qui m'avaient déjà filé à Marseille et avaient dû monter dans le même train que moi. Je sens très bien que si le juge d'instruction m'a laissé en liberté, ce n'est que provisoirement, et qu'il espère toujours que je commettrai une imprudence qui me trahira et lui permettra, malgré le sublime sacrifice de Guéret, de m'incarcérer à mon tour et de m'envoyer avec lui sur les bancs de la cour d'assises. Monsieur Shortcock, vous allez me défendre, nous défendre, n'est-ce pas? Oh oui, je le lis dans vos yeux, si francs, si humains, si lumineux de volonté, d'intelligence et d'énergie. Vous nous sauverez tous les deux. Oui, vous nous sauverez. Je vais essayer, madame, déclarait le célèbre limier. Au cours de votre récit, j'ai déjà saisi au passage quelques détails qui peuvent devenir entre mes mains de très bons atouts. Dès que vous m'aurez quitté, je vais mettre de l'ordre dans tout cela, préparer un plan de campagne
car je ne m'embarque jamais à la légère. Et j'espère bien qu'avant 48 heures, je serai entré en action. Mais en attendant, que dois-je faire? Interrogeait Madame de Roscanvel. Vous avez un domicile à Paris? Oui, monsieur, un hôtel particulier, 57 rue Harry Hayne. Mais outre qu'il me serait extrêmement pénible de l'habiter, car je n'y suis pas rentré depuis la mort de mon mari, ça me serait impossible, pour la raison bien simple que je n'y trouverais aucun domestique, pas même un gardien de nuit, pas même. Le détective se tut pendant quelques secondes. Puis il fit: Le mieux pour vous est de descendre dans une pension de famille modeste, mais confortable. Et donc, si vous le désirez, je puis vous donner l'adresse. Oh, certainement, monsieur. Bien, le Calme Abri, 40 rue Boileau, à Auteuil. Je vais téléphoner tout à l'heure à la directrice, qui est une de mes amies. Vous pouvez lui donner un faux nom. Cela est préférable sous tous les rapports. Venant de ma part, on ne vous réclamera aucun renseignement, aucun papier. Je vous demanderai d'attendre là, que je vous donne signe de vie. Oh, rassurez-vous, cela ne tardera pas. J'ai l'habitude d'aller vite en besogne. Et je compatis tellement à vos souffrances que j'ai hâte de les abréger. Je vous conseille d'avoir, non pas du courage, car je viens de constater que vous en possédiez à revendre, mais de la patience. Et surtout de ne pas vous rebuter si, comme je ne voulais pas dissimuler, nous nous trouvons, si quel plus que probable, c'est-à-dire certain, en face d'obstacles certainement difficiles à vaincre. J'en aurai autant qu'il le faudra, affirmait la comtesse Marie-Thérèse. Elle se levait et se préparait à prendre congé de Chantecoq. Mais celui-ci la retint. D'ici peu, j'aurai de nouveaux renseignements à vous demander. Inutile, monsieur Chantecoq, de vous dire qu'en tout temps et en toutes circonstances, je demeure à votre entière disposition. Une dernière question pour aujourd'hui, posa le détective. Je vous en prie. Pourriez-vous me dire si une perquisition a été opérée à votre domicile de la rue Henri Heine? Je n'en ai pas entendu parler. Si cette formalité avait eu lieu, j'en eusse été certainement averti. Bien, m'appuya le grand limier. Ce que le juge d'instruction a négligé, moi je voudrais bien le faire. Monsieur Chantecoq, proposait Madame de Roscanvel, si douloureux soit-il pour moi de pénétrer dans cette maison où j'ai été si heureuse, je suis prête à vous y accompagner. Non, il est préférable, madame, mettait le roi des détectives, que l'on ne vous y voie pas. On pourrait vous accuser ensuite d'en avoir fait disparaître certains documents compromettants, ou d'y avoir introduit au contraire des papiers ou lettres fabriqués après coup dans l'intérêt de votre défense. Il est plus sage que je fasse cette visite seule, sans témoin, à moins que vous n'y voyiez un inconvénient. Pas du tout, monsieur Chantecoq. Avant de vous rencontrer, uniquement parce que je savais de vous, j'étais prête à suivre aveuglément toutes vos directives. Maintenant que je vous ai parlé, que je vous ai entendu, je tiens à vous affirmer que ma confiance en vous est illimitée. Et, s'emparant de son petit sac à main, qu'au cours de cet entretien elle avait déposé sur la table du détective, elle en retira un trousseau de clés qu'elle tendit à Chantecoq en disant: Voici les clés de la maison. Faites-en l'usage qui vous conviendra. Le limier s'empara du trousseau et le glissa dans la poche de son veston. Avant de vous quitter, reprenait la jeune femme, oh, laissez-moi vous remercier encore. Attendez que nous ayons triomphé. Alors à bientôt. À très bientôt, madame. Une dernière recommandation. Ne sortez pas du Calme Abri tant que je ne vous aurai pas téléphoné. Oh, soyez sans inquiétude, c'est une affaire de 24 heures, peut-être moins, mais pas davantage. Il embrassa la main que lui tendait la comtesse, qu'il reconduisit jusque dans le vestibule. En passant, il jeta un coup d'œil dans la salle à manger. Colette et son mari n'y étaient plus. Gaufret prévint son patron que Monsieur Bellegarde était parti pour son journal, que Madame était allée faire quelques courses et que tous deux priaient Monsieur Chantecoq de les excuser. Le détective regagna son bureau. Déjà installé devant une petite table, Météore relisait des feuillets recouverts de caractères sténographiques. C'était toute la conversation qui venait de s'échanger entre le roi des détectives et la comtesse de Roscanvel, et que, d'une pièce voisine, grâce à un microphone d'une merveilleuse sensibilité, le secrétaire du grand limier avait pu intégralement prendre en dictée. Tu n'as rien perdu, interrogeait Chantecoq. Pas une virgule, patron. Je vais vous taper cela à la machine, seulement, il y en a un gros morceau. Pourvu que j'aie le tout pour ce soir, avant dîner, cela me suffira amplement. Soyez tranquille, patron, je serai prêt. Tout en appuyant familièrement la main sur l'épaule de Météore, le détective, qui semblait d'excellente humeur, lui demanda: Hé, qu'est-ce que tu dis de cela, petit? Patron, je suis l'avis de l'avocat de Marseille. Il n'y a que vous au monde capable de percer à jour le mystère du train bleu. Mais ce juge d'instruction, quel vilain sapajou! Qu'est-ce que tu veux? Chacun fait son métier selon son caractère. Le ciel n'est pas joli, joli. C'est pas trop sa faute. Quand on est mufle, on risque fort de mourir de même. Mais j'espère bien d'ici peu lui donner pas mal de fil à retordre. Bon, j'y compte, patron. Et si je peux vous donner un coup de main? Je ne dis pas non. Chouette. Et la dame? Qu'est-ce que t'en penses de la dame? La comtesse de Roscanvel? Eh oui, parbleu. Patron, je ne l'ai pas vue, ni même entrevue, mais je l'ai entendue. Quelle voix harmonieuse, enchanteresse. Votre correspondant anonyme a raison. C'est une sirène. Non, rectifiait Chantecoq d'un ton plein de profondeur. Non, non, Météore, ce n'est pas une sirène, c'est une pauvre femme.